Bienvenue à vous qui nous écoutez. Pour fêter ses plus de 30 ans d'existence, l'Institut Hoffmann nous offre ce moment précieux pour découvrir comment son programme a changé la vie de ceux qui l'ont suivi. Je suis Céline Lanus, journaliste indépendante. L'Institut Hoffmann m'a confié le soin de réaliser ces interviews. Aujourd'hui, Yves et Véronique de Lille. Ils témoignent de ce que le processus Hoffmann, qu'ils ont suivi séparément en 1992, leur a apporté à chacun, mais aussi pour le plus grand bonheur de leur couple.
Est-ce que vous pourriez m'expliquer les raisons qui vous ont motivé à venir au processus Hoffmann, puis à suivre le SAT ?
On était dans une impasse à ce moment-là. On avait deux enfants. On n'avait que deux enfants. On en a trois maintenant. Là, ils avaient respectivement 5 et 8 ans. Je portais un petit peu tout sur mes épaules. J'étais dans un tourbillon de ma vie où je portais tout à bout de bras. Les enfants, la maison, la compta, le travail, nos liens relationnels, les dîners. Enfin bref, je n'existais plus. Et j'étais devenue trop responsable, trop raisonnable. Plus j'étais responsable et raisonnable, plus je ramenais Yves à une réalité qui était trop sérieuse et qu'il cherchait à fuir avec son insouciance, sa candeur, son dynamisme que j'avais tant aimé quand on s'est connus. Ce qui fait qu'on était au bout d'un système et on était dans l'autodestruction. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire un travail sur les rêves et j'ai compris toute l'importance de la réappropriation de mon moi pour mon plus grand soulagement. L'espoir revenait et l'énergie revenait. C'est alors que mon thérapeute, au bout de 7-8 mois, m'a proposé de faire le processus Hoffmann.
Donc 1992, vous partez faire le processus Hoffmann. C'est un stage à l'époque ?
C'était 10 jours à Fontjouan, pas très loin de Blois. J'ai laissé tout le monde, mes enfants, mon mari, tout le monde, et je suis partie après le travail préparatoire que j'avais fait l'été avec les enfants en famille et qui m'avait déjà énormément apporté. Et je m'y donnais vraiment corps et âme. J'avais une soif. Le fait de pouvoir me réapproprier mon moi m'avait mis dans une dynamique que plus rien ne pouvait arrêter. C'était une effervescence qui était en moi. Et à partir de ce jour-là, je suis devenue une inlassable chercheuse de vérité.
Voilà, justement. Alors, qu'est-ce que vous cherchiez précisément avec ce processus ?
Moi. J'étais confuse. En fait, on ne va peut-être pas déjà passer par l'énéagramme, mais de ce que j'étais à cette époque-là, j'essayais de faire plaisir à tout le monde, j'essayais de tout faire. J'étais partout, je tenais tout et je n'existais plus. Donc j'avais une profonde détresse et je ne pouvais me raccrocher à personne en fait, parce que Yves, je lui faisais peur parce qu'il me voyait dans cette angoisse et cette effervescence permanente. Donc lui, sa façon de se protéger, c'est par l'insouciance. Donc en fait, j'étais plutôt repoussante par rapport à sa psychologie qu'il va expliquer après. Et quant à mes parents et ma famille, personne n'aurait rien compris. Donc j'étais complètement seule. Voilà. La première fois que je suis arrivée avec toute ma valise de mon manteau, mon armure de peur, bien que j'avais fait tout ce travail préalable de manière extrêmement soignée, soigneuse, avec minutie, j'allais sauver ma vie, je partais vraiment au combat. Quand je suis arrivée, mes peurs sont arrivées. Donc, j'étais toute crispée. J'étais dans l'invisibilité et la neutralité pour pouvoir réussir à prendre ce que je devais prendre, me protéger. J'étais dans cette alternative qui m'a permis peu à peu de m'ouvrir quand j'ai senti de la sécurité, de la bienveillance. Et peu à peu, je me suis retrouvée comme un poisson dans l'eau. Et là, ça a été une révélation. Et je suis arrivée au monde. Ça m'émeut encore aujourd'hui.
Vous avez noué, à l'occasion de ce parcours, une relation thérapeutique particulière avec Karine. Comment pourriez-vous qualifier cette relation ?
Karine a toujours joué un rôle très important pour moi, car elle m'a donné sa confiance et je me suis toujours sentie en confiance en sa présence. J'ai beaucoup d'anecdotes. Karine incarne l'amour inconditionnel d'une mère aimante. Elle représente l'ordre juste, où les erreurs sont notées, mais hors jugement. Ce ne sont que des écueils faits pour nous aider à nous transformer. Elle a une grande capacité à prendre du recul et à agir dans l'immédiateté pour amener chacun à voir ce qui est difficile pour lui. Karine, c'est la bienveillance dont j'ai tant manqué dans mon enfance. C'est la force, la rigueur, avec un appétit de vie qui nous montre que la vie peut être aussi légère pour notre plus grand bonheur. Quand je suis malheureuse, la première chose à laquelle je pense, mais je ne rirai plus jamais, je ne m'amuserai plus jamais, j'ai besoin de la légèreté de la vie. Et voilà, je l'ai aussi avec Karine, et ça c'est merveilleux. Il y a une immédiateté, une adaptabilité qu'elle emmène avec elle, avec l'âge qui avance, c'est ce qui est le reflet de tout l'amour qu'elle a donné et qu'elle continue à donner et qu'elle se donne à elle-même également.
Yves, maintenant, j'aimerais notamment savoir quelles ont été à l'époque les raisons qui vous ont motivé à venir au processus Hoffman.
Véronique a fait le SMAN en septembre 92 et quand elle est revenue, elle était transformée, enfin je la voyais différemment. Et là, bon ben ça m'a interpellé et j'ai fait le processus Hoffman juste après, trois mois après, en décembre. Là, j'ai senti que s'était passé quelque chose en elle et je sentais qu'elle avait quelque part une longueur d'avance, quoi. Je me suis dit bon là, il y a quelque chose qui m'échappe. J'étais trop amoureux d'elle pour la perdre. Et bon, d'autre part, je m'intéressais beaucoup à la psychologie, à la psychanalyse. Bon, quand j'y suis allé, bon, je me disais, bon, moi, ma vie, elle va bien. J'étais quand même assez insouciant. Et bon, je me dis, bon, j'y vais parce que je veux voir ce que c'est. Mais on va dire, allez, je suis allé un peu là-bas en touriste, quoi. Avec une petite, pas une méfiance vraiment, mais bon, j'avais peur d'être manipulé quelque part. Bon. Donc là, quand je suis arrivé là-bas, le premier jour, il s'est passé quelque chose quand même qui m'a marqué. Il y avait une interview et il y avait Catherine qui était en face de moi, derrière un bureau. Et à l'époque, il y avait un monsieur qui s'appelait Max Lamande qui était à côté, quoi. Et donc, elle m'a questionné, etc. Et tout. Bon, puis moi, j'étais là, très décontracté, je répondais. À la fin de l'entretien, je la vois se lever. Et elle vient vers moi, et là, d'un coup, autant je pouvais être pas arrogant, mais décontracté et tout, et là, d'un coup, je me suis senti tout petit. Et elle s'est levée comme ça, elle est venue vers moi, et puis elle a ouvert les bras, et puis elle m'a dit « embrasse-moi ». Bah oui, embrasse-moi. Donc je suis allé vers elle, bon, je vais embrasser comme ça. Elle m'a dit « non, embrasse-moi ». Bon, elle a répété trois fois. Alors moi, je ne savais pas comment elle voulait que je l'embrasse, je ne comprenais pas. Et puis elle me dit, tu sais pas embrasser. Bon, donc on est, je suis parti. Bon, après on a passé la première journée. Donc il y avait tous les thérapeutes en face de nous, tous les stagiaires qui étaient en face et tout ça. Et puis on nous a débriefé, on a parlé et tout. Et puis à un moment donné, moi j'ai réalisé d'un coup, je sais pas pourquoi, mais que j'avais été manipulé par ma mère et tout. En fait, avant d'avoir déroulé le processus, d'un coup, j'ai compris quelque chose, quoi. Et je me rappelle que je m'étais levé et j'étais allé vers le bureau où ils étaient tous assis et j'avais dit à Catherine, toi, ma mère. Et puis après, j'avais montré du doigt Karine et j'avais dit, toi, ma grand-mère, vous m'avez manipulé toute ma vie maintenant. Maintenant, j'ai compris et tout. Et ça, bon, je pleurais à moitié, enfin bref. Et là, elle me dit, bon, assieds-toi. Et la nuit, d'un coup, j'ai réalisé toutes les années que j'avais passées à travers les manipulations que j'avais subies. Et je ne pleurais jamais, mais j'ai pleuré toute la nuit. J'ai passé une nuit blanche. C'était l'horreur, quoi. Et donc, enfin, voilà. Donc, j'ai démarré le processus comme ça. Et là, je suis rentré à fond, quoi, dedans. J'ai fait tous les exercices. Bon, il y avait des moments qui étaient très difficiles, que je n'arrivais pas à faire. Mais enfin, je les ai fait quand même.
Il y a une petite anecdote, c'est que avant que je fasse le processus, où j'avais découvert qu'il fallait que j'aille me réapproprier mon moi, je travaillais sur mes rêves, que j'analysais tous les jours, invariablement, petite souris bien, bien studieuse. Et Yves, il regardait ça, il regardait mon travail, ce qui fait qu'un soir, il me dit « Tiens, j'ai fait un rêve ». Alors, il me raconte son rêve. Et puis, le rêve se terminait par « J'avais mes godasses qui puaient ». Alors, je lui dis « Tu ferais bien de t'occuper de tes godasses ». Et là, il me regarde et il me dit « C'est ce que je compte faire ». Et notre vie a changé à cet instant. Je ne l'oublierai jamais. Parce qu'on a toujours vécu une passion amoureuse, tous les deux, qui est très forte. Du premier jour où on s'est rencontrés, pour aller dans une destruction. Et oui, si Yves n'avait pas bougé, on se serait séparés. La route était... Mais l'amour était plus fort. Et ça, c'est quelque chose qu'on porte aujourd'hui.
Est-ce que, si on devait qualifier le processus Hoffman, on pourrait dire que, pour des gens qui ne connaissent absolument pas ça et qui ont envie de comprendre, ce processus consiste à guérir les blessures de l'enfance, même quand on n'en a pas conscience, en fait.
Absolument, absolument, absolument. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'essentiel n'est pas ce qu'on a fait de vous, mais ce que vous faites de ce qu'on a fait de vous. Et à partir de ce moment-là, on prend les choses à bras-le-corps pour se changer soi, parce qu'on ne peut pas changer le monde, en fait. Et le jour où on comprend ça, on commence à aller vers son autonomie.
Et je voudrais rajouter aussi, c'est qu'à côté de ça, il n'y a pas d'esprit de vengeance, au contraire. On a une compassion qui s'installe vis-à-vis de nos parents, malgré ce qui s'est passé, parce que, quelque part, eux aussi ont été victimes de leurs parents. En fait, c'est sûr qu'eux, ils ont une part à travers nous, mais à partir de ce qu'eux, eux-mêmes, ont subi, ont vécu, quoi. Donc, il y a une grande compassion qui s'installe. C'est là où il y a la beauté du processus.
Quoi. Oui, et on les a accompagnés. Et là encore, actuellement, j'accompagne maman qui a 93 ans, jusqu'à leur fin, avec le plus de bienveillance et d'amour qu'on peut leur donner. Tout en, avec maman, je suis aussi encore obligée aujourd'hui de cadrer, de ne pas me laisser déborder, parce que moi, j'ai toujours tendance à me laisser. Quand si ça va trop loin, je dis « bon, je m'en vais, je reviens demain ». Et le lendemain, elle est « voilà ». Vous voyez, comme un enfant, je suis devenue la mère de... Voilà, mais je l'aime.
Vous avez fait le processus il y a plus de 30 ans désormais. Est-ce que vous pourriez nous en dresser un bilan de ces 30 années? Quels ont été les bénéfices dans votre vie, votre travail, avec votre famille?
Les premiers bénéfices sont la communication. Et à partir du moment où on retrouve la communication, on trouve la foi. On trouve la foi en soi, on trouve la foi dans les autres. Et aujourd'hui, du haut de mes 67 ans, pour moi, le plus important, alors je vais dire quelque chose qui est tellement galvaudé et banal, c'est l'amour. Et l'amour, c'est quelque chose que vous ressentez quand vous sentez une communication fluide entre un être et vous-même, où il y a cette histoire sans parole, où il y a de la bienveillance, c'est juste un regard. Et ça, pour moi, c'est le plus profond du travail du processus.
Moi, disons qu'à la sortie du processus, j'ai compris qu'on ne se libérait pas de ces démons du jour au lendemain. Cela dit, on connaissait leur nom et on savait à quel moment ils pouvaient apparaître et les émotions que ça pouvait susciter. Et à partir de ce travail, on avait enfin les outils pour les combattre, hein, ces fameux démons. Et puis là, ça a été ma relation avec Véronique. Je me pose plus la question de savoir pourquoi je l'aime. C'est devenu un amour conditionnel. Certes, on s'accroche de temps en temps, hein, on n'est pas d'accord sur tout. Mais très vite, il y a une richesse de dialogue et chacun permet à l'autre de reconnaître sa part d'ombre. Et là, bon, là on comprend que ces heurts ils sont plus constructifs que destructifs. Hein, parce que quand même, ça nous amène à un dialogue et à faire le point. Et en fait, on a une remise en question en permanence. Bon, on se respecte profondément et les décisions qu'on prend, telle ou telle chose, on le fait toujours, on le fait jamais séparément, on le fait toujours ensemble, on en discute. Ça nous coûte pas, il n'y a pas ce sentiment de frustration si nous on a émis une idée et puis que l'autre n'est pas tellement pour. Il n'y a pas de frustration. On est là, si Véronique a des doutes sur quelque chose, bon ben je vais le respecter et peut-être que moi je ne l'ai pas compris, mais elle a compris et inversement. On s'est là-dedans. J'ai un besoin de partager avec elle, je ne peux pas vivre une situation sans elle. J'ai besoin de la partager avec et de ressentir son plaisir. Et son plaisir, c'est mon plaisir. Moi, je l'appelle ma conscience. Donc, je suis dans mes petits nuages de temps en temps. Hein. Donc, c'est ma conscience. Donc, si jamais elle me dit non, c'est qu'elle, elle a compris que là, j'étais en train de m'envoler quelque part. Quoi. Il fallait que j'atterrisse un petit peu. Donc, ça me fait réfléchir. Pour reparler un peu de bénéfices, quelque part, moi, personnellement, puis même nous, hein, on a changé l'échelle de nos valeurs. Bon, on a éliminé le paraître au bénéfice de nos vrais besoins. Hein, on n'est pas là en train de vouloir frimer et tout. C'est pas le matériel ou notre masque qui compte, c'est ce qu'on est au fond de nous. On n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Hein, on nous aime ou on ne nous aime pas. Et là, en fait, ce qui a changé aussi, c'est la relation avec nos enfants. Ça s'est fait petit à petit, quelque part. Là, maintenant, on le sent parce que on sent que le regard de nos enfants a changé au fur et à mesure. Ils nous demandent conseil. On sent qu'ils nous aiment, quoi, hein, sans vouloir.
Ils sont bienveillants. Ils veillent à ce qu'on soit bien aussi.
Et aussi, quelque part, à travers nos amis. Nos amis nous prennent comme on est et à la limite nous apprécient comme on est parce qu'on n'essaie pas d'en imposer, de paraître, tout. Voilà. Et en fait, ce paysage s'est changé, quoi.
Est-ce que c'est pertinent de recommander à des jeunes qui entrent dans leur vie adulte de suivre ce processus?
Moi, je pense qu'on peut le faire à n'importe quel moment de sa vie. Ce qu'il faut, c'est la motivation profonde intérieure. Quand on a fait nos deux processus, on y est allé pour aller au cœur du réacteur. Et c'est toute la problématique d'Hoffmann. Parce que certaines personnes disent « bon, ok, je vais le faire », mais on reste dans les contours. Moi, ça a été la douleur de sauver ma vie. Yves, ça a peut-être été se dire, attention, qu'est-ce que je vais devenir si jamais on se sépare, qu'est-ce qui va se passer, alors qu'on avait tous les ingrédients pour être bien ensemble. Et ça nous a donné une force de chercheur de vérité et non pas de tourner autour. Alors, quand on est jeune, est-ce qu'on a cette puissance? Martin l'a eu, mais ayant fait nous-mêmes cette démarche, ça l'a peut-être motivé. Il l'a fait d'une manière certainement plus superficielle qu'il ne l'aurait fait. Lui, sa révélation, il me l'avait dite. Quand il a fait Hoffmann, c'est qu'il s'est dit « mais en fait, j'ai pas de problème ». Il était en rébellion contre ses parents et il a découvert qu'il n'avait pas de raison d'être en rébellion profonde. Il y en a toujours, hein, mais il a vu des gens dans une souffrance terrible, ça lui a quand même permis de contacter la compassion. Donc, c'est quand même très important. Et aujourd'hui, il est humain.
Moi, je dirais que ça peut à un jeune lui apporter une réponse à ce qu'il est vraiment déjà. Hein, c'est-à-dire que quelle est sa part, quelle est la responsabilité des parents, quelle est sa responsabilité à lui. Donc là, il va pouvoir se construire autrement, c'est-à-dire qu'il ne va pas partir vers un mauvais chemin. Donc pour lui, c'est tout bénéfice de faire ça, hein, de savoir qui il est vraiment dès le départ, quoi. Donc ça peut être un avantage de démarrer sa vie comme ça, sans se prendre des vestes sans arrêt.
La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on donne aux jeunes beaucoup de leurres, beaucoup de faux-semblants. Et donc, ils rentrent là-dedans. Et en même temps, ils ne se posent plus la question, ils ne se posent pas la question, quel est mon vrai bonheur? Quelle est ma voie? Quels sont mes dons et talents? Et à partir de mes dons et talents, qu'est-ce que je vais en faire? Non, mon fils, tu vas être, et on te demande de répondre aux arcanes sociaux professionnels. Je lisais un article il n'y a pas longtemps d'un surdoué qui avait eu le bac à 14 ans. Et il a fait de brillantes études, et puis il a commencé à travailler. Et 10-15 ans plus tard, il s'est rendu compte que pour lui, ce qu'il avait fait ne lui correspondait pas. Et il est reparti dans la musique, et aujourd'hui, il est chef d'orchestre. C'est merveilleux. Il a retrouvé son sens. Et je pense que, voilà, il y a une question de sens.
Il faut vouloir être heureux, quand même.
Ben voilà.
C'est pas donné à tout le monde.
Non.
Absolument.
Non.
Et là, comme Karine, bon, elle vide sa passion, c'est sa vie. Voilà, et donc bon, c'est ça qui est important. Et donc, avoir des passions, c'est hyper important, ne pas être victime de sa vie.
Alors, tu dis quelque chose de très juste, le nerf de la guerre. C'est que si vous avez une passion, alors pas que amoureuse, hein, une passion, et que cette passion, tout d'un coup, elle peut vous échapper, alors peut-être que ça peut donner la force d'aller au combat. En vieillissant, on a acquis la sagesse de prendre l'amour que chacun nous donne à son propre niveau. Et si c'est un petit niveau, ben c'est un petit niveau. Si c'est, on prend tous les niveaux et on aime bien les grands niveaux.
Très bien. Bon, on va finir sur cette jolie phrase alors.